sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Et un peu plus loin, supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'est pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? Il en est de même de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Elle est morte. Ce matin, je voudrais, avant de venir plus directement aux commentaires de l'Écriture, dire quelques mots en préambule sur le caractère un peu particulier de cette journée que nous pouvons intituler ensemble « Aide et espoir ». Après le culte, nous partagerons un repas malgache organisé donc par cette association, notre association Aide et Espoir, et puis nous aurons l'Assemblée Générale de cette même association. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une mise en application concrète du deuxième grand commandement de la loi de Dieu : tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'association Aide et Espoir met en œuvre l'aide humanitaire que notre Église apporte dans divers domaines et en divers lieux, au loin et au près. Et c'est une œuvre qui est accomplie par notre Église depuis bien longtemps. Si l'association elle-même Aide et Espoir a été créée en 1994, l'entraide par l'envoi, par exemple, de colis de vêtements et de médicaments à Madagascar, c'était déjà quelque chose qui était en route quand je suis arrivé dans cette église au début des années 50. C'est que des liens fraternels forts unissent notre église baptiste de Nîmes et les églises baptistes de Madagascar depuis leur origine dans les années 30. Ces liens historiques, toujours vivants aujourd'hui, explique la dominante de cette journée, ce focus sur Madagascar. Vous avez ici un certain nombre d'objets que nous avons ramenés au cours de nos voyages dans cette belle île où nous avons beaucoup d'amis. Il y a 15 jours, ici même, nous avions avec nous notre frère David Ratoum, qui représente cette association d'églises baptistes malgaches et qui assume des responsabilités au niveau de la CIM. Cette association, qui, lorsque je l'ai connue sur place pour la première fois en 1982, regroupait une vingtaine d'églises et qui regroupe aujourd'hui environ 160 églises. Ces liens historiques, donc, sont toujours vivants aujourd'hui. Mais d'autres lieux sont l'objet d'actions d'entraide comme des parrainages d'enfants et de familles en Roumanie, des actions ponctuelles lors de catastrophes comme le tremblement de terre en Haïti il y a quelques années, ou encore tout simplement, et à notre porte, dans le régulier, l'aide scolaire gratuite pour des enfants de notre quartier. Je voulais juste brosser très rapidement une esquisse de ce qu'est l'association Aide et Espoir. Évidemment, nous en parlerons plus en détail tout à l'heure. Je voudrais maintenant considérer avec vous, à partir des textes lus et quelques autres, quelques éléments fondamentaux qui explicitent les bases de notre action et les bases de notre témoignage. L'état dégradé de notre humanité marqué par le péché. L'action salvatrice et régénératrice de Dieu, le Créateur et le Sauveur. Et la mission confiée par Dieu à son peuple, qui peut se résumer ainsi, un peuple aimé pour aimer. D'abord, quelques mots pour dire cette réalité qui n'a pas besoin d'être démontrée, une humanité dégradée. Nous avons plusieurs textes qui le disent de façon explicite, dont un au début de la lettre de Paul aux Romains, c'est un texte assez connu, qui dit « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui, en ne l'honorant pas et en ne respectant pas sa volonté, étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres, quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans leurs raisonnements absurdes et leur pensée, dépourvue d'intelligence, s'est trouvée obscurcie. Voilà pourquoi, un peu plus loin, Dieu les a abandonnés à leurs sentiments. Ils ont accumulé toutes sortes d'injustices et de méchancetés, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leurs devoirs envers leurs parents, ils sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, insensible, impitoyable. D'autres textes tiennent le même langage dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Cette dégradation de l'humanité par le péché touche tous les domaines de la vie, de la personne et de la collectivité. Oui, dégradation personnelle pour l'être, pour chacun. Dégradation de la pensée, des sentiments, du comportement. Dégradation aussi des structures sociales. Dégradation de la vérité, de la morale, de la justice et des relations humaines. Je ne vais pas développer davantage ce sujet. Une humanité dégradée. Dieu est un Dieu juste et miséricordieux. Un Dieu qui condamne le péché et en fait porter les conséquences à ceux qui le commettent, mais qui, prenant en compte les effets du péché sur l'ensemble des humains, compatit au malheur des opprimés, des pauvres, des malheureux, des blessés de la vie. Un Dieu qui, dès l'histoire ancienne, celle de l'Ancien Testament, un Dieu qui prend soin de l'étranger, qui vient au milieu de son peuple, qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Et Dieu qui agit en faveur de tous ces malheureux, de tous ces démunis, par l'intermédiaire de son peuple. Et nous voici donc au cœur de notre sujet de ce matin. Un peuple aimé et sauvé pour aimer son prochain, pour aimer les autres. Je lis encore un texte dans l'Évangile selon Marc, un texte qui rappelle une parole fondamentale de l'Ancien Testament, au chapitre 12 et au verset 28, pour ceux qui veulent les références. Un des spécialistes de la loi s'approcha de Jésus. Il avait entendu la discussion que Jésus avait eue avec les pharisiens et il avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus a aimé, il est venu pour nous sauver. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils, pour venir sur la terre et pour nous sauver. Ce savoir aimer de Dieu. Et avoir ensuite, d'une manière totalement reconnaissante et conséquente par rapport à cet amour dont nous sommes les objets, aimer notre prochain et aimer d'abord nos frères. Et Jésus l'a dit à plusieurs reprises à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Aimer, avoir été aimé pour aimer les autres. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Aimer pour aimer. Je voudrais décliner cette vérité fondamentale en quelques applications concrètes. Délivrer pour être délivré et délivrer pour délivrer les autres. Un peuple délivré pour annoncer la délivrance. Jésus, nous dit la lettre aux Hébreux, a partagé la condition humaine pour anéantir par la mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Jésus est venu délivrer tous les êtres humains de la peur de la mort. Il est venu pour cela. Il est venu et il a annoncé la libération. Il a dit à ceux qui l'écoutaient, « Si vous vous attachez à ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Si c'est Jésus-Christ qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Tous les êtres humains ont besoin d'entendre cette parole. D'abord parce que chacun a son idée de la liberté, et toute autre idée que celle que Jésus est venu annoncer est entachée de l'erreur et de l'illusion. Si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement des êtres libres. Par sa parole, par la vérité, par la connaissance de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est selon Dieu et de ce qui ne l'est pas. Vous serez libérés d'abord du grand esclavage du péché. Et nous sommes un peuple libéré pour annoncer cette libération-là à tous ceux qui vivent autour de nous. Nous sommes libérés pour annoncer la délivrance, pour annoncer que nous ne sommes plus tenus de craindre la mort, mais que nous sommes appelés à entrer en possession de la vie et de la vie éternelle. Vivre en peuple libéré pour annoncer la délivrance. Voilà notre vocation. Un peuple éclairé pour éclairer les autres, conduit pour montrer aux autres qu'ils peuvent à leur tour être conduits. Par quoi ? Par la lumière de Dieu, encore une fois. Par la lumière qui nous donne la véritable vision de la lumière. Par ta lumière, dit le croyant de l'Ancien Testament, par ta lumière, nous voyons la lumière. Éclairée par Dieu sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus dit : Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et il a dit à ses disciples : Pétris de la même pâte que nous, fais de la même glaise, mais habité du même esprit. Il leur a dit : Vous êtes la lumière du monde. Quelle parole ! Quelle parole extraordinaire, surprenante. Vous êtes la lumière du monde. Et l'apôtre dira plus tard dans une de ses lettres, l'apôtre Paul : Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Frères et sœurs chrétiens, et vous tous qui écoutez cette parole, voilà la réalité de l'œuvre de Dieu. Voilà la réalité de l'action de Jésus dans le cœur et dans la vie de ceux qui se confient en lui. Bien sûr, nous sommes en chemin, nous sommes loin d'atteindre à une pleine réalisation de cet objectif admirable. Mais c'est à cela que nous sommes appelés. Oui, c'est à cela que nous sommes appelés. Vous êtes la lumière du monde. Suivre Jésus. Nous sommes conduits par lui, nous pouvons nous mettre à son écoute. Et par là même, nous pouvons témoigner à ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas le chemin de la foi et la lumière de la vie, qu'on peut avoir cette connaissance du vrai et du bien pour marcher dans la vérité et dans la lumière. Un peuple conduit par Dieu pour manifester qu'on peut être conduit de cette manière si on se confie dans le Seigneur. Un autre élément, nous sommes un peuple nourri par Dieu pour nourrir les autres. Dieu a conduit son peuple dans le désert, dans l'histoire d'Israël, et il l'a nourri spécialement du pain du ciel dans cette zone désertique dans laquelle le peuple marchait. Il lui a donné la manne, le pain du ciel. Et cette réalité historique est devenue aussi l'image de Jésus qui est venu aussi comme le pain de vie. Il est venu comme la lumière, il est venu comme le pain. Je suis le pain de vie. Le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et lorsque les disciples ont entendu cette parole, ils ont dit à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » C'est aussi notre prière. « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et lorsque Jésus a enseigné, marché sur les chemins de la Palestine, enseigné le peuple, il lui est arrivé aussi, en voyant la foule autour de lui, de les rassembler pour les nourrir concrètement, avec du pain et du poisson, en multipliant le pain et le poisson qui lui avaient été confiés. Et à ce moment-là, les disciples, étonnés avant le miracle, ont dit, « Seigneur, nourrir cette foule de plusieurs milliers de personnes sur la colline qui domine le lac de Tibériade, pour nourrir ces milliers de gens qui sont là, comment veux-tu que nous fassions, puisque nous n'avons que quelques pains et quelques poissons ?» Et vous savez ce que Jésus leur a répondu ? Il leur a dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » C'est une parole aussi étonnante que celle « Vous êtes la lumière du monde ». Donnez-leur vous-même à manger. En fait, c'est ce qu'ils ont fait. La seule chose, c'est qu'auparavant, Jésus a multiplié les pains et les poissons. Ils ont donné ce que Jésus avait produit. Donnez-leur vous-même à manger. Mais c'est eux qui ont distribué le pain et le poisson à toute cette foule. Donnez-leur vous-même à manger. Cette parole, nous devons aussi la retenir, en sachant que c'est à nous, chrétiens, croyants, sauvés par la foi en Jésus-Christ, c'est à nous qu'il revient de donner le pain de vie à ceux qui sont autour de nous. C'est une autre manière, une autre image pour dire cette même réalité. Parler de Jésus, le pain de vie. Parler de celui qui se donne pour que nous ayons la vie. Donnez-leur vous-même à manger. Après le pain, la boisson, après la nourriture, l'eau, désaltérés pour désaltérer, nous avons été abreuvés à la source inépuisable de l'eau de la vie. Un épisode du Nouveau Testament nous le rapporte de façon très concrète. Jésus marchait sur les chemins de la Palestine et à un moment donné, il était, comme tout être humain, fatigué et il avait soif. Et il s'est assis au bord du puits de Jacob. Et le voici qui voit arriver une femme samaritaine et qui voit cette femme se pencher pour puiser de l'eau dans le puits. Et il lui dit, donne-moi à boire. Tout simplement, donne-moi à boire. Et Jésus s'entend répondre par cette femme de Samarie, comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. En effet, les juifs n'avaient pas de conversation entre eux, les juifs, et les samaritains. Ils ne se parlaient pas. Et Jésus répond à cette femme, si tu connaissais celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et elle dit, mais Seigneur, tu me demandes à boire, mais tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Et voilà la réponse de Jésus. Celui qui boira de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau de la vie, encore une autre image pour parler de ce don de la vie que Jésus est venu apporter. Un peuple désaltéré à la source de l'eau vive qui peut annoncer à tous ceux qui sont assoiffés de vérité et de justice que la vérité et la justice se trouve d'abord en Jésus-Christ. Un peuple consolé et réconforté pour consoler et réconforter les autres. Nous avons lu au début de notre méditation ce soin pour ceux qui n'ont pas le nécessaire, pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, dans la persécution. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. » Explicitement, tout est dit, et je n'ai pas grand-chose à ajouter. Réconforté et consolé, nous l'avons été et nous le sommes par Jésus-Christ. Et il nous réconforte dans nos détresses, dans nos peines, dans nos souffrances, afin que, par l'aide qu'il nous a apportée dans ce domaine et par la reconstruction intérieure du courage et de la foi, nous puissions être à même d'encourager ceux qui traversent à leur tour des épreuves et des souffrances. Nous pouvons leur apporter ce que Dieu nous a apporté. Je voudrais conclure cette évocation de quelques aspects pratiques de l'amour du prochain par ce texte toujours de l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates qui dit « Faisons le bien sans nous lasser et sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne nous relâchons pas dans nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. À cela, nous sommes appelés en permanence. Ne nous lassons pas de faire le bien et de le faire à tous. Si le propos est un propos qui vise d'abord ceux qui sont au plus près, ceux qui sont près de nous, ceux qui sont de la famille, le propos de Dieu s'élargit à l'ensemble de ceux qui sont à notre portée. Et notre regard va simplement au-delà, mais bien au-delà, que ce qui serait perceptible au sein de la famille. Faire du bien à tous ceux que nous pouvons atteindre. Il ne s'agit bien sûr pas de la totalité dans le sens quantitatif, mais il s'agit de l'ensemble de ceux qui peuvent se trouver auprès de nous ou sur notre chemin et qui ont besoin de tous les aspects de cet amour du prochain et d'autres dont nous venons de parler. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à cela que nous continuons ensemble et chacun d'être appelés. Amen. Pour exprimer cet appel, je voudrais vous proposer maintenant de chanter le cantique « Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour ». Jésus te confie une œuvre d'amour, et pendant le chant de ce cantique, nous pourrons aussi, mais dans la liberté, apporter, si nous le souhaitons, nos offrandes dans les boîtes qui circuleront. Jésus te confie une œuvre d'amour. Levons-nous pour chanter ce cantique. Amen. merci de prendre place. Si j'ai bien compté, je crois que j'ai 11 chapitres sur ma liste des annonces.